Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Arpentaire, une émission du Zoom Écologie présentée par moi-même, Lisa, et Louis, qui est en régie aujourd'hui. Ce soir, nous aborderons deux actualités, en essayant autant que faire se peut de les croiser. D'une part, la fin hier de la COP28 à Dubaï, qui a rassemblé jusqu'à 80 000 participants, entre le 30 novembre et le 12 décembre. On passera en revue ce qui est à retenir de cette 28e conférence des parties, mais aussi ce que peut nous en dire le territoire, la ville dans laquelle la COP s'est déroulée. D'autre part, il y a deux jours, se finissait le cycle d'action des soulèvements de la terre contre l'industrie du béton. Et on écoutera un bout de la kermesse des terres qui a eu lieu à Paris sur le site de l'entreprise Cemex, sur les quais de Seine, en face de l'industrie de la Farge. Et on interrogera donc cette industrie du béton. L'exercice de l'émission sera d'essayer de définir les deux visions d'écologie qui se dessinent dans ces événements a priori peu comparables et en quoi elles s'opposent. Pour répondre à cette question, nous avons en notre compagnie Léa Bonnefoy. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en planétologie, c'est-à-dire que vous étudiez le système solaire au laboratoire de météorologie dynamique. C'est ça ?
C'est ça.
Vous êtes aussi militante, vous faites partie du groupe scientifique en rébellion, tout comme vous, Irénée Fréau.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Vous êtes physicien et chercheur au CNRS. Au téléphone, en direct avec nous depuis Tours, nous avons Romane Stadnicki. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à vous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du département de géographie à l'Université de Tours et chercheur à l'UMR Citeres et dans l'équipe du Monde arabe et Méditerranée. Vous nous parlerez plus en détail de cette ville de Dubaï et vous casserez un certain nombre de préjugés la concernant. Les dernières négociations ont rallongé l'heure de fin officielle de la COP28, qui, au lieu de signer un accord final mardi matin, s'est prolongé jusque tard dans la nuit de mardi. Et en cause, c'est la question apparemment encore épineuse chez nos chers dirigeants des énergies fossiles. Les pays pétroliers, pour la plupart, refusent de mentionner dans le texte d'accord une sortie définitive des énergies fossiles. Le Global Stock Take, c'est le nom du texte, appelle, je cite, à une transition hors des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques d'une manière juste, organisée et équitable en accélérant l'action climatique dans cette décennie critique de manière à atteindre la neutralité d'ici à 2050. Bon, c'est une très jolie phrase, mais selon Valérie Masson-Delmotte, ancienne présidente d'un des groupes de travail du GIEC, si les promesses de ce texte sont tenues, cela impliquerait une baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre en 2030, alors qu'on aurait besoin de 43% de baisse. Alors que l'on prenne encore des pincettes pour savoir si un texte d'accord international sur le climat et le respect des 1,5 degrés d'augmentation d'ici 2050 doit évoquer la sortie des énergies fossiles, qu'est-ce que ça révèle selon vous, alors Irénée Fréau ou Léa Bonnefoy ?
Irénée ? Je peux répondre, oui, ça révèle quand même quelque chose qui est assez désolant. Déjà sur le fait qu'après 28 COP, on en soit encore à débattre du fait que les énergies fossiles fassent partie du problème climatique, c'est vraiment navrant. Et ce qui est encore plus quelque part scandaleux, c'est de voir nos dirigeants, les grands de ce monde, se féliciter d'avoir enfin réussi à se mettre d'accord là-dessus. C'est un fait physique de base depuis franchement plus d'un siècle, hein, même que brûler des carburants fossiles conduit à un réchauffement du climat. Maintenant, c'est très documenté à l'échelle mondiale depuis plus de 70 ans. Enfin, voilà. Donc, c'est en fait à ce rythme-là, vraiment, si on doit compter sur les COP pour faire avancer la lutte contre le chaos climatique, enfin, la COP 178, on en sera tous morts de soif et ces gens-là dans un bunker climatisé au nord de la Suède à se demander où sera la prochaine virgule, quoi. Donc, c'est assez désespérant et ça révèle une volonté de ne pas lutter contre le changement climatique. Peut-être qu'on en reviendra après sur le rôle que jouent les COP aujourd'hui, en fait.
Ce projet d'accord, il est considéré à la fois comme une victoire pour la ministre de la Transition écologique et aussi pour Total Energy. Ça aussi, c'est quand même très révélateur de ce que ces textes... ça va dans le sens de ce que tu viens de dire.
Oui, absolument. Et je pense qu'on peut voir vraiment... Donc, il y a ce dirigeant, le sultan Al-Jaber, qui était vraiment emblématique. voilà, ce mania du pétrole pour organiser cette COP, pour héberger cette COP. Mais en fait, c'est un problème bien plus large. Il y avait plus de 2500 lobbyistes, dont effectivement le patron de Total qui était là-bas. Et on peut vraiment voir dans les détails, hein, si ça vous intéresse, on peut aller vraiment décortiquer les détails de ce texte. Et le diable est dans les détails, comme on dit. Et là, vous avez cité cette phrase, les détails partout, donc le diable est partout, quoi. Sur effectivement toutes les nuances de sortir uniquement des énergies fossiles pour l'énergie. Donc ça, ça sous-entend, parce que les énergies fossiles, elles sont utilisées aussi pour fabriquer du plastique. Donc ce que ça sous-entend, c'est qu'ils ont envie de continuer à sortir les énergies fossiles du sol pour en fabriquer des plastiques et inonder le monde avec. Arrêter les subventions inefficaces aux énergies fossiles. Quoi. Ça, c'est une phrase fantastique. Inefficace est définie partout. Accélérer les efforts pour diminuer les centrales qui n'ont pas de système de capture du carbone en sortie, enfin que des choses comme ça. Et le texte commence par, c'est pas du tout une décision contraignante ou quoi que ce soit, c'est un appel aux parties à contribuer à l'effort global pour toutes ces choses-là. Autant dire que franchement, il n'y a absolument rien à attendre de concret de ces choses-là, il n'y a aucun chiffre, aucune date, enfin c'est vraiment complètement vide. Et donc de voir les dirigeants se féliciter, enfin ça démontre qu'ils sont très contents qu'il ne va rien se passer, quoi. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire.
Bon. Donc tu l'as dit, près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles accrédités à la COP28. Il n'y en avait que 636, enfin, c'est déjà énorme, l'année dernière, et il y en avait 15 je crois à la première COP. C'est dire un peu aussi la direction de prendre ces COP. Un président de COP en plein conflit d'intérêts, donc à la fois ministre de l'industrie des Émirats Arabes Unis, PDG d'un géant du pétrole, l'ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Bon, le choix d'organiser la COP28 à Dubaï, ça cristallise quand même ces contradictions un petit peu. Mais on va pas aller trop vite. D'abord, Roman Stadnicki, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide historique de cette ville si jeune ?
Oui, alors moi je suis géographe et pas historien, mais c'est pas très compliqué d'aborder l'histoire de Dubaï parce qu'elle est très récente et du point de vue de la forme. Qu'elle a prise cette ville, effectivement, ce qu'on peut remarquer, et puis pour rester dans le thème du sujet, ce qu'on peut remarquer d'emblée, c'est que c'est une ville qui s'est développée en rupture avec son environnement. C'est-à-dire qu'on a une image qui est assez déformée, d'ailleurs, l'image d'une skyline et donc de tours qui s'élèvent très haut, il y a ça, mais le modèle résidentiel de base, c'est celui de la maison individuelle, d'un étalement urbain sans limite, d'une ville automobiliste sur le modèle des villes américaines, hein, dont les villes du Golfe se sont tout à fait inspirées, avec des quartiers fermés, des clusters urbains qui font ville, voilà, dont l'accumulation fait ville. Donc c'est une ville en rupture avec son environnement, et en même temps c'est une ville qui a défié la nature en quelque sorte, et elle en a fait une force, hein, dans les discours politiques locaux. Ce désert rendu habitable, effectivement, à coup de consommation d'énergie, hein, de dessalement d'eau de mer, de consommation de ressources dont d'ailleurs Dubaï ne dispose pas. Même le sable de Dubaï n'est pas propre à la construction, donc il a fallu l'importer. Mais cette nature défiée est vue aujourd'hui à Dubaï comme un savoir-faire, comme quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour aller dans le sens d'une transition écologique. Hein, voilà le discours tel que je le sens, tel que je le perçois, à partir d'un modèle urbain qui est effectivement un condensé d'artificialisation, on pourrait dire, hein, le désert artificialisé par l'urbanisation, et la mer, ne l'oublions pas, la mer aussi artificialisée totalement sur la côte de Dubaï par la poldérisation, vous savez, ce procédé qui consiste à avancer la terre sur la mer. Donc ça s'est fait à Dubaï à coup de îles artificielles. Si vous totalisez les côtes de ces îles artificielles, vous avez 1500 km de plage aujourd'hui à Dubaï. Donc vous voyez, l'artificialisation n'est pas un vain mot en ce qui concerne la capitale économique des Émirats Arabes Unis.
Et comment est-ce que vous expliquez que les gouvernements et les dirigeants d'entreprise soient les mêmes personnes ? Ça, c'est quand même quelque chose qui nous étonne ici. Alors bon, on verra.
Ben oui, parce que nous sommes sortis du modèle de l'oligarchie et de la collusion des pouvoirs publics et privés. bon, c'est un régime monarchique absolu avec un pouvoir hyper centralisé où effectivement l'émir lui-même, hein, d'ailleurs, est à la fois émir, président de la municipalité de Dubaï, hein, les échelles locales et nationales sont ou fédérales plutôt sont totalement superposées. Et puis effectivement, vous avez sur le modèle du conseil d'administration des dirigeants, des ministères, des ministres qui siègent à la tête des plus grandes entreprises. Alors avec des montages sophistiqués, effectivement, parfois de partenariats publics-privés dont on peine à saisir les contours, et puis d'entreprises qui finalement basculent vers le secteur privé, reviennent vers le public ensuite sous forme de renationalisation. Bon, c'est très compliqué de comprendre le fonctionnement du milieu économique et politique. On le résume effectivement par son hypercentralisation et puis par l'absence de système démocratique.
Et donc pour une ville comme ça, dont les capitaux proviennent principalement du tourisme et du divertissement de luxe, quel est l'intérêt d'accueillir un événement comme la COP?
Ah bah, d'abord, y a plusieurs choses. La légitimité incontestable de Dubaï, c'est dans l'organisation de méga-événements. Et ça tombe bien, la COP est un méga-événement et Dubaï sait faire. C'est le premier aéroport international au monde, hein, 66 millions de passagers en 2022. Donc c'est très facile d'arriver de toutes les parties du globe à Dubaï, d'être instantanément reçu dans les innombrables hôtels, et d'organiser simultanément plusieurs conférences, comme le permet le méga-site du parc des expositions qui avait accueilli l'année dernière l'exposition universelle. Donc vous voyez, la principale, je dirais, la grande expertise de Dubaï, c'est dans cette organisation de méga-événements qu'elle cherche à enchaîner sur une cadence tout à fait remarquable. Après, il y a trois motivations, ou trois facteurs qui ont incité Dubaï à s'inscrire, à se mettre sur la file d'attente de l'organisation d'une COP, même si s'il y a un principe de rotation géographique qui fait que ça revenait au monde arabe, hein, si j'ai bien suivi, et que vu l'état actuel de la région, Dubaï n'avait pas beaucoup de concurrents. Doha, la capitale du Qatar, avait organisé déjà sa COP il y a 10 ans. C'était presque encore plus choquant parce que c'était au moment où le Qatar construisait ses stades situés à quelques kilomètres de distance seulement pour accueillir la Coupe du Monde de l'année dernière. Donc les trois facteurs, les trois grandes motivations de l'émirat de Dubaï et plus largement peut-être des Émirats Arabes Unis, hein, Dubaï est un des 7 émirats des Émirats Arabes Unis, c'est d'abord une inquiétude réelle et assez précoce sur la question du réchauffement. Vous savez, à Dubaï, vous avez 47-48 degrés assez fréquemment entre avril et septembre-octobre. Alors évidemment, ils ont développé une climatisation artificielle phénoménale, y compris dans les espaces extérieurs. Bon, ceci dit, à Paris, on chauffait les terrasses il n'y a pas encore si longtemps. Donc ils ont su, pour le moment, mais ils ont bien conscient que c'est temporaire et que c'est très dépendant aussi des énergies fossiles, ils ont quand même conscience de ce problème du réchauffement. Le deuxième facteur, la deuxième motivation, il faut absolument changer l'image. Il faut changer l'image d'un émirat de Dubaï qui serait celui avec le record de l'empreinte carbone par habitant la plus élevée au monde. Ils considèrent ça comme injuste d'ailleurs là-bas parce qu'ils sont peu nombreux. C'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'habitants. Et puis ils estiment que le fondateur des émirats, le cher Zayed, avait fait beaucoup aussi. Il était très, très conscient des enjeux écologiques. Il avait fait beaucoup pour verdir le désert, justement. Donc, ce défi à la nature qui est transformé, comme je vous le disais, en atout environnemental et écologique. Et puis, le troisième motif, et c'est probablement le troisième facteur, c'est probablement le plus important, c'est voir l'écologie, l'environnement, comme un levier de diversification économique. C'est-à-dire qu'à Dubaï, on a bien compris qu'il y avait des débouchés économiques, et oui, dans le domaine des énergies renouvelables. Vous savez que, alors on n'est plus à Dubaï, mais on est à Al-Dhafra, donc à côté d'Abu Dhabi, vous avez la plus grande centrale photovoltaïque au monde, hein. C'est 4 millions de panneaux solaires qui pourraient alimenter près de 200 000 foyers. Donc, ils ont compris qu'il y avait un débouché économique dans ce domaine, ils ont lancé tout un tas de projets, et puis surtout ils activent à partir de cela ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire effectivement l'attraction d'investisseurs, la signature de contrat, par le truchement, par exemple, de Masdar. Vous savez, Masdar, c'était ce projet de ville qui devait être 100% écologique, situé à Abu Dhabi, et qui finalement n'a pas abouti, n'a pas rencontré le succès escompté, mais c'est pas grave, c'est devenu une entreprise dédiée aux énergies renouvelables, et qui, de COP en COP, eh bien, va signer des contrats pour développer des fermes solaires, etc. L'an dernier, à la même heure, c'était à Sharm el-Sheikh que les choses se passaient en Égypte, hein, la COP 27, et Masdar était déjà représenté pour signer des contrats pour installer des panneaux solaires en Égypte. Donc la transition écologique comme débouché économique, voilà une motivation pour accueillir ce méga événement.
Oui, on a bien compris. Je pense que vous avez un peu défini voilà, ce que c'était que l'écologisme à Dubaï, quoi. Bon, pour revenir au texte dont on parlait au début, les pays producteurs de pétrole voient exaucer leur demande d'inscrire dans le rapport final le développement des technologies de captage et de stockage de carbone. Tu nous en parlais, Irénée. On sait qu'elles sont encore balbutiantes, qu'elles sont très chères. Qu'est-ce que c'est concrètement, ces technologies? C'est du technosolutionnisme, en fait. Ça poursuit le business as usual?
Absolument, c'est du technosolutionnisme, c'est-à-dire que c'est des technologies qui ne sont pas du tout au point, qui coûtent très cher, et surtout, même si un jour elles marcheraient et seraient efficaces, ça va mettre beaucoup trop longtemps. Et le problème, c'est qu'on est dans l'urgence climatique et que dans 10, 20, 30 ans, ça sera trop tard pour réduire nos émissions de carbone et qu'il faut réduire maintenant, drastiquement. Et ces technologies de captage de carbone ne sont pas matures et ne sont pas non plus déployables à grande échelle dans l'ensemble du monde pour réduire vraiment nos émissions de carbone. Ce qu'il faut, c'est réduire la combustion des énergies fossiles. C'est pas les capter, quoi.
Et donc le technosolutionnisme, il a été pointé comme aussi dangereux que le climato-négationnisme par le GIEC. C'est pour cette raison-là, parce que ça repousse finalement le moment où on agit.
Oui, il y a énormément d'exemples de technosolutionnisme qui est en gros le concept de la croissance verte. C'est aussi du technosolutionnisme, c'est de dire qu'on peut continuer le business as usual, on peut continuer notre société avec des solutions magiques. Il suffit d'y mettre assez d'argent, d'y réfléchir très fort et ça va marcher, ça va résoudre tous nos problèmes. Avec une foule d'exemples, comme la fusion nucléaire, qui ne va jamais fonctionner pour résoudre nos problèmes, comme le captage de carbone. Il y a énormément d'exemples aussi. La voiture électrique individuelle, c'est du technosolutionnisme. Ce n'est pas une vraie solution, c'est des énormes véhicules qui émettent beaucoup à la construction. L'électricité, elle vient de quelque part. Il faut changer le modèle plutôt qu'essayer de trouver des solutions artificielles qui ne résolvent rien.
Alors, à cette COP, c'est quoi finalement les grandes décisions, ou peut-être les non-décisions d'ailleurs, qui ont été prises à Dubaï?
Il n'y a aucune décision qui est prise, c'est simplement une déclaration qui n'engage absolument personne. Tout est laissé au bon vouloir des États, c'est vraiment le problème. Ils ont juste décidé de tous signer un texte, mais enfin, on peut revenir même sur l'accord de Paris qui était présenté comme une grande décision. Depuis l'accord de Paris, le réchauffement du climat, il ne ralentit pas, il accélère. Donc c'est vraiment des fabriques de l'impuissance collective. Si on peut revenir un petit peu là-dessus, tout à l'heure on entendait différentes raisons pour lesquelles Dubaï voulait organiser cette COP. Une qu'on peut ajouter, c'est qu'ils veulent freiner la transition et que ces COP sont les événements où s'organise le frein à la transition. La prochaine, elle sera organisée en Azerbaïdjan, donc autant dire en fait en Russie. Sur le plan géopolitique, c'est Poutine qui sera à la manœuvre, qui alors là est explicitement veut absolument tout faire pour ne jamais faire cette transition-là. Donc c'est un espace qui joue ce rôle-là, en fait, au niveau mondial, donner l'illusion que le problème climatique est pris en charge tout en se débrouillant pour qu'il ne se passe rien. Les COP, c'est un espace de discussion, mais elles sont conçues pour qu'aucune décision contraignante n'y soit prise. C'est un peu le rôle qu'elles jouent dans la géopolitique mondiale, quoi.
On reviendra sur cette question d'ailleurs du rôle des COP juste après un morceau. On écoute, alors que je ne me trompe pas, on écoute Dalbéton de Dalbéton.
We'll be right back. Fatal Ibrahimovic. Fatal, béton. Fatal Ibrahimovic.
Du sable.
Du sable.
Du gravier.
Du gravier.
Du ciment.
Du ciment.
Ça fait tel béton.
Ça fait tel béton.
Du sable.
Du sable.
Du gravier.
Du gravier.
Du ciment. Ça fait tel béton.
Ben on est de retour en direct sur Radio Fréquence Paris Pluriel pour le Zoom Écologie dans son format Arpenteur. Oui, parlons du financement alloué au fonds des catastrophes pour les pays vulnérables. Il est complètement dérisoire. Les financements alloués sont équivalents au salaire des 3 footballeurs les mieux payés, d'après ce que j'ai compris. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on peut encore prendre au sérieux les objectifs affichés par la COP? Et est-ce qu'il n'y a vraiment plus rien à attendre des COP? Est-ce que ce sont que des grandes annonces et du greenwashing?
Oui, je crois que vous avez vraiment bien résumé la situation. Cette question des financements, en effet, elle est absolument cruciale. Déjà, on peut rappeler qu'aujourd'hui, les énergies fossiles en 2023, enfin, je ne sais pas si c'est les chiffres de 2022, mais c'est quasiment pareil, reçoivent plus de 7 000 milliards de dollars de subventions et de financements. Alors peut-être les subventions, c'est 1 000 milliards par an quoi, au niveau mondial. Donc ça, c'est un aspect. Vous avez évoqué ce fonds pertes et dommages qui a abondé à quelque chose comme 1/1000 de ce qui est estimé nécessaire. Et pour continuer sur pourquoi ces COP entretiennent l'illusion que les choses sont prises en charge, on nous dit parfois, oui, sans les COP, on irait sur des trajectoires de plus 4 degrés à la fin du siècle. Mais là, grâce aux COP, on va vers plus 3 degrés. En fait, si on regarde dans les détails, ces plus 3 degrés, c'est sous hypothèse que certaines politiques climatiques dans les pays du Sud soient mises en place. Ces politiques, elles sont sous condition que les pays du Sud reçoivent certains financements des pays du Nord, dont on n'a jamais vu la couleur. Donc même ça, en fait, c'est de la communication. Ce n'est pas du tout le monde réel encore pour l'instant. Donc c'est... Alors, oui, vous avez parlé de greenwashing, en tout cas une fabrique de l'impuissance, une manière de freiner la transition en donnant l'impression que... Bah, tout va bien, les grands de ce monde prennent les choses en charge. Donc c'est vraiment dramatique quoi, quand on voit les conséquences humaines qui sont derrière. Quoi.
En France, il y a des altercop qui ont été organisées par des groupes de scientifiques en rébellion pour protester contre la tenue d'une COP dans des conditions où l'influence des intérêts pétroliers et gaziers semble n'avoir pas eu d'équivalent. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire ce que c'est les scientifiques en rébellion?
Oui, alors les scientifiques en rébellion, c'est la branche française de Scientist Rebellion, qui est un collectif international de scientifiques qui se mobilise pour motiver la transition climatique, mais pas que climatique, aussi pour combattre l'effondrement de la biodiversité et toutes ces problématiques-là, à l'aide de tout un tas de méthodes qui incluent des communications, des soutiens aux collectifs locaux qui se battent pour des causes locales et aussi des actions de désobéissance civile non violente. Du coup, cette COP alternative, c'est l'idée que, en gros, les COP ne suffisent pas. Elles sont absolument insuffisantes. Même si elles ont une utilité, c'est si minuscule que vraiment... ça n'a aucun effet sur le changement climatique, c'est ce qu'on observe, et qu'il faut absolument créer de nouveaux espaces, de nouvelles méthodes pour discuter de ces problématiques et pour trouver ensemble des nouvelles solutions. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un débat citoyen où c'est pas seulement les lobbyistes, les politiciens, etc., qui vont discuter de ces problématiques, mais c'est tout le monde. Donc on a vraiment essayé de créer un espace avec une grande diversité de thèmes et de gens présents pour vraiment comprendre ces problématiques. Donc moi, j'ai trouvé ça très enrichissant comme expérience. Il y avait des experts qui discutaient des problématiques de l'eau, de l'agriculture, des énergies, aussi des imaginaires, parce qu'il faut voir comment on imagine le futur. C'est aussi un frein à s'organiser. Et c'était très enthousiasmant de voir toutes les idées qui sont ressorties de cette expérience, de différents collectifs, de différentes initiatives, de différents combats qui viennent un peu tous ensemble pour essayer de construire quelque chose qui fonctionnerait beaucoup mieux que ce qui sort de la COP28.
Ces idées, on peut les consulter quelque part ? C'est disponible ? Ça a été... Non ?
Alors, normalement, tout a été enregistré et on peut voir la COP alternative enregistrée sur le site de Scientifiques en Rébellion. Si elle n'est pas encore disponible, elle le sera bientôt. Et on compte aussi poursuivre l'action avec peut-être une autre COP alternative l'année prochaine, mais aussi plein d'actions tout au cours de l'année, partout dans le monde, pour continuer le combat et continuer aussi la discussion. Parce que c'est très important de discuter et de comprendre les problématiques très complexes qui sont en jeu.
Oui, les questions démocratiques et écologiques sont vraiment liées, on le voit dans ce que vous nous dites. À Dubaï, Roman Stadnicki, les syndicats ne sont autorisés que depuis 2006. La ségrégation sociale est très claire, il n'y a pas d'élection, mais un gouverneur propriétaire, on l'a vu. Quel est le statut du débat public, et j'irai même plus loin, de la politique à Dubaï ?
Ouais, alors c'est vraiment une très bonne question et j'avais très envie de réagir à tout ce que j'entends effectivement sur ces alternatives. Vous voyez, ce que je trouve toujours regrettable, mais c'est souvent les contre-effets de ces opérations de com, de branding et de greenwashing, c'est que ça invisibilise tout un tas d'alternatives qui existent aussi aux Émirats, qui existent aussi dans une ville comme Dubaï, ou qu'il ne faudrait pas effectivement réduire parfois à la caricature. C'est une société complexe et il y a surtout une jeunesse, une jeune génération qui est assez tiraillée parce qu'elle est à la fois respectueuse des émirs qui ont apporté à la population la richesse, la stabilité, etc. Mais qui en veut aussi beaucoup à la génération du dessus qu'il n'appelle pas boomer comme chez nous, mais on voit ce conflit de génération et la jeune génération à qui on peut parler aujourd'hui aux Émirats, en veut à la génération du dessus qui a consommé sans entrave, etc., et qui n'avait pas de conscience écologique. Et donc, des alternatives de ce type, on peut les voir. Alors évidemment, ce n'est pas sur le site de la COP28 que vous les trouverez, mais plus discrètement, dans les marges de l'agglomération, sur une plage où des collectifs vont aller s'organiser pour ramasser les déchets. Vous parliez des syndicats, alors ils n'existent pas. En revanche, il y a eu des grèves d'ouvriers. Les premières ont eu lieu en 2008. On est aussi dans une jeune histoire politique, vous voyez, et sociale dans ce pays. Et c'est symbolique, mais la première grève d'ouvriers du bâtiment à Dubaï a eu lieu sur le chantier de Burj Khalifa, qui est la tour la plus haute du monde. Vous savez, celle qui fait... 800 et quelques mètres. Donc il y a un certain nombre d'alternatives, des oppositions discrètes, je dirais. Je pense aussi à un collectif qui s'est battu pour que les arbres replantés partout par millions à Dubaï ne soient pas des arbres importés, mais au moins des arbres endémiques. Il y a une petite espèce endémique qu'on appelle le raf qui pousse assez bien dans le désert sans consommer trop d'eau. Donc il y a des choses à dire aussi. La jeunesse de Dubaï a des choses à dire sur l'écologie, sur le modèle de développement, mais tout cela est évidemment invisibilisé parce qu'on parle de Dubaï, évidemment, parce que cet événement aussi permet de faire la lumière sur toutes les contradictions et puis sur les conflits d'intérêts, et tout ça doit être dit. C'est simplement regrettable qu'on ne puisse pas en profiter pour créer une communauté d'intérêts ou une communauté de sentiments autour de ces questions, et notamment autour de la jeunesse qui, je crois, est porteuse de changements, même si c'est discret à ce jour.
La France a été épinglée par la Corporate Europe Observatory pour avoir accrédité dans sa délégation officielle six hauts cadres de la compagnie pétro-gazière Total, qui a annoncé le développement d'un projet pétrolier géant pour exploiter 200 barils par jour au Suriname. Voilà, juste, c'est l'actualité de Dubaï en ce moment. Le mélange des genres dont on a parlé pour Dubaï, entre la politique et les entreprises, c'est pas propre à Dubaï, en fait. Quelles sont les relations... Dubaï ne s'est pas faite toute seule, je veux dire. Quelles sont les relations avec les... par exemple notre pays ou bien les pays occidentaux.
C'est une excellente remarque, c'est pour ça que j'ai toujours un peu de difficulté, vous savez, avec ce qu'on appelle le Dubaï bashing. C'est évidemment tentant, c'est facile de taper sur une situation qui est assez typique, qui est extravagante et qui se passe aussi sur fond, il faut le rappeler, aussi sur fond de domination sociale, avec une main-d'œuvre expatriée, largement exploitée, etc. Donc tout ça, c'est une réalité, mais moi, j'ai tendance à considérer que Dubaï n'existe que parce que la mondialisation existe, dans sa version la plus débridée, néolibérale, pourrait-on dire. Et de ce point de vue-là, nous, c'est-à-dire la France, pour ne pas la nommer, nous sommes un acteur de ce processus de mondialisation accélérée. Et donc nous sommes totalement liés par la diplomatie, donc ça on le comprend de mieux en mieux, par les affaires, par le commerce. Les Émirats ont acheté beaucoup d'armes à la France, on en a profité pour lancer toute une action de diplomatie culturelle, musée, je pense au Louvre à Abu Dhabi, Sorbonne, université. Donc on ne peut plus faire comme si ce qui se passait là-bas ne nous regardait pas. Et alors moi, ce que je regarde plus attentivement, c'est-à-dire l'urbanisme, l'aménagement, l'architecture, là, les liens sont encore plus étroits. C'est-à-dire que non seulement les grands promoteurs immobiliers de Dubaï sont présents partout en Europe. Moins à Paris qu'à Londres, certes, mais ça va probablement venir. Et puis nos entreprises françaises sont aussi largement engagées aux Émirats aujourd'hui. Tiens, c'est Veolia qui a décroché le grand marché du traitement des déchets, puisque les Émirats démarrent un peu dans le recyclage de déchets, et c'est Veolia qui a démarré. C'est Vinci qui a co-construit les infrastructures, on en a parlé notamment au moment de la Coupe du Monde au Qatar avec les stades. Donc c'est trop facile de considérer d'une part Dubaï comme une figure de proue d'une mondialisation débridée qui nous toucherait de loin, et puis c'est trop facile aussi de nous désengager, nous, effectivement, puissance occidentale, porteuse de valeurs, etc., et de bonnes pratiques, de nous détacher totalement de ce modèle.
Et oui, parce que la France, elle se veut vraiment la championne de la transition écologique. Est-ce qu'on peut encore prendre au sérieux le terme de transition, alors que des historiens comme Jean-Baptiste Fressoz ont montré que la transition énergétique, c'était un leurre, en fait. Les énergies, elles s'additionnent plus qu'elles ne se remplacent les unes les autres.
Oui, alors effectivement, chaque nouvelle source d'énergie ne vient pas remplacer la précédente, mais au contraire va s'y ajouter, si bien qu'on consomme plus de bois et de charbon aujourd'hui que jamais avant, je pense. Et tout ça, c'est parce qu'on consomme de plus en plus d'énergie de manière tout à fait... qui augmente énormément. Et c'est ça qu'il faut arrêter. C'est tout à fait la première étape, c'est de consommer moins d'énergie plutôt que d'essayer de remplacer les sources d'énergie, ce qui n'est pas vraiment possible de faire complètement. Il faut vraiment diminuer notre consommation d'énergie.
Oui, je voulais aussi ajouter quelque chose pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant. C'est vraiment très, très important ce qui a été dit, l'imbrication en fait de tous les pays. Enfin, c'est pour ça qu'à la fois, après cette déclaration, la ministre s'est félicitée qu'il ne se passe absolument rien. Comme ça, tout va continuer comme avant. De même, on avait un roi d'Arabie qui disait « ne vous inquiétez pas, cette déclaration, ça n'impliquera absolument rien sur nous ». Et oui, pour revenir sur le fait qu'on est dans un système qui est mondialisé, et c'est-à-dire que les COP permettent de mettre à l'abri quelque part des enjeux climatiques les grands centres de pouvoir économique mondiaux, les grandes instances comme la Banque mondiale, le FMI. Ou l'OMC, qui sont du coup mis à l'abri de toutes les discussions climatiques, puisque ça se passe dans les COP. Et du coup, tout peut continuer comme avant. Donc, effectivement, Dubaï, on met l'accent dessus, et je suis tout à fait d'accord que c'est un peu facile. Tout le monde est complice, en fait. Tout le monde est bien content. Les États-Unis sont bien contents de ne jamais organiser de COP. Comme ça, il ne peut ne rien se passer. Ils disent, on n'est pas nous, c'est la faute de l'émir, machin, si on n'a pas pris de décision. Mais tout ça, c'est vraiment une mascarade pour nous faire croire que le climat, c'est un vrai sujet, alors que non.
D'ailleurs, en termes d'énergie, vous pouvez nous dire un peu ce qui s'est passé à la COP sur les discours. Moi, j'ai noté donc 8 grandes mesures, mais sans calendrier, qui mentionnent que la réduction progressive du charbon dans la production électrique, mais pas les autres combustibles fossiles. Le gaz naturel est considéré comme un gaz vert.
Oui, effectivement. Il y a un article qui pousse à reconnaître le rôle du gaz pour faciliter la transition. Effectivement, alors on des annonces pour augmenter, ça y en a, pour augmenter les renouvelables x3 en 2030. Alors il y a une phrase qui est assez extraordinaire sur vraiment la formulation, sur doubler le rythme auquel les gains d'efficacité énergétique progressent d'ici 2030. Voilà, ça, c'est vraiment super ambitieux, c'est le premier point, le point A. Là, voilà, accélérer les efforts pour diminuer les centrales sans capture de carbone, continuer les efforts vers le net zéro en 2050, quelque chose comme ça. Sortir des fossiles pour la production d'énergie, on l'a mentionné, ce qui sous-entend continuer à les utiliser pour faire du plastique. Alors on mentionne booster les renouvelables, le nucléaire, la capture de carbone. Donc là, on est un peu dans le technosolutionnisme conventionnel et l'idée qu'il suffit juste de changer, enfin, même l'idée même, enfin, c'est assez problématique hein, de voir l'écologie uniquement à travers le prisme de quelles sont les sources d'énergie. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies. Ouais. Enfin, il y a une phrase qu'on cite souvent d'un collègue, comment il s'appelle, Aurélien Barraud, il dit, il a cette phrase qui est assez bien sortie, de dire « je me contrefiche de savoir si le dernier arbre d'Amazonie sera abattu avec une méga tronçonneuse électrique ou à essence, c'est pas le sujet. Quoi. Qu'est-ce qu'on fait de ces énergies ?» Voilà, donc c'est vraiment... vraiment désolant en fait de voir le niveau intellectuel de ces discussions quand on voit les conséquences qui vont être derrière. Hein. Les États insulaires, ils étaient alors officiellement un peu déçus, mais enfin ils sont à de quoi être absolument catastrophés. Certains États vont être rayés de la carte dans le siècle qui vient vu comme on est parti. Enfin, c'est ça les conséquences. Des migrations aussi dans les pays du Sud. On voit déjà la crise de l'hospitalité qu'on traverse alors que c'est quelques dizaines de milliers de migrants. Ça va être des centaines de millions qui vont être jetés sur les routes de l'exil. C'est ça qui est derrière, derrière cette mascarade. C'est pas un jeu, quoi. C'est ça qui est vraiment terrible.
On continue juste après Ninia de Anna Tijoux.
Se mueve, mueve, cuando llueve, llueve. De esta agua bebe, saca lo que te duele. Tu latido. Son latidos de hormiga levantando los ladrillos. Tu tambor retumba con platillo. Canta por los bosques, salpica con los grillos. La pluma y el puma, la bruma, la rumba. Zumba con la cumbia, en la ultratumba. El sol te acompaña con el dulce de la caña. Subirá tú la montaña entre maleza y maraña. Sube la cima, súbete a la tarima. Toma la pala, sube de escala hasta la colina. ¿Qué? Y viento cala, respira, exhala. Si algo ataca tú mantén la calma en mí. Míralo, siéntelo por el suelo. Transpira, respira el cielo, ¡vámonos! ¡Niña! Que el fuego encendí, fruta recogí solo para ti, ti. Tira de la cuerda, viene una tormenta. Viene pa' limpiar al hombre con su metralleta. Tú lleva el polen de flores de primavera. Que nutre la tierra, alimenta la sierra. Habla con el viento, cuando pierda fuerza. Sube a paso firme hacia la cordillera. Tanta gente escapando en patera. Porque algunos se enamoraron de guerra. Disparando muerte, pero las ideas se plantan. Se alzan, levantan, se cantan y bailan. Por eso las matan. La vida les da miedo. Y tú llevas fuego que late con tus dedos. Tienes los ojos de tu abuela que tú portas poderoso. Somos roca que alborota, brota. ¡Niña! El río que esta agua te dará. La lluvia, la brisa, la vida, mi niña. No pierdas la risa, mi niña, mi niña.
Vous êtes de retour sur le Zoom Écologie, c'est Arpenteur. Roman Stadnicki, parlez-nous un peu du lieu de, ce, de ce, cet immense dôme dans lequel a eu lieu la COP28 à Dubaï et ce que génère ce type d'événement en fait en termes de développement aussi urbain.
Oui, c'est très important de repartir des lieux effectivement où se produisent ces événements qui sont de plus en plus déterritorialisés. Et là, vos invités en studio l'ont bien dit avec ce jeu diplomatique, le grand concert des acteurs dominants, etc. Mais en repartant des lieux, il y a aussi des enseignements à tirer. D'abord sur ce modèle de ville-événement que Dubaï souhaite désormais incarner, hein, vers lequel elle souhaite aller. C'est-à-dire, il faut s'imaginer ce qu'est ce site qui a donc accueilli l'exposition universelle il y a deux ans, dans un enchaînement de gestes architecturaux incroyables, sur fond de d'écologisation urbaine, on pourrait le dire, puisqu'ils sont en train de recréer toute pièce un écosystème, profitant d'une petite crevasse dans le plateau désertique à cet endroit-là. Pour essayer de transformer ce site à terme en méga éco-quartier. Mais l'objectif principal, c'est d'organiser de nouveaux événements. Donc entre l'exposition universelle et la COP28, je crois qu'il y a eu un sommet mondial des océans, un festival de cinéma dédié à l'intelligence artificielle. Donc on est là sur des rythmes d'organisation d'événements assez sans précédent. Et ce qui est intéressant de voir, je terminerai là-dessus, dans cette périphérie de Dubaï, hein, on est dans le désert, on est assez loin de la côte, c'est que ce autour de ce site, prenaient place des projets qui avaient eu du plomb dans l'aile au moment de la crise financière. Vous savez, c'est un modèle très vulnérable parce qu'il y a beaucoup de spéculation et donc des bulles qui éclatent. Et en 2008, la bulle immobilière avait éclaté et des projets avaient été abandonnés. Je pense au projet du deuxième aéroport de Dubaï qui est collé au site où a eu lieu la COP28 et je pense aussi à un projet d'île artificielle en forme de palmier autour du port de Jebel Ali. Eh bien, ces événements, exposition universelle COP28, ont paradoxalement permis de relancer ces projets. Donc ce que disait Irénée sur la COP comme frein à la transition, c'est en partie vrai si l'on regarde à quel point ces événements ont permis, finalement, dans un effet d'entraînement de l'investissement, ont permis de relancer des projets qui n'ont rien à voir avec l'écologie, une île artificielle où il va encore falloir dessaler beaucoup d'eau de mer pour approvisionner en eau, et puis un aéroport, parce qu'encore une fois, Dubaï, c'est l'histoire de la mondialisation et c'est le plus grand aéroport au monde qui vise, je crois, 90 millions de passagers par an. Donc là, effectivement, on est dans les freins. Alors, on est dans les freins, il y a eu aussi des petites avancées, parce que Dubaï s'est préparée à cet événement, elle a toute l'année vanté les mérites de la durabilité, elle a lancé de nouveaux projets d'éco-quartier, donc voilà, on est dans ce paradoxe des accélérations, des avancées et des freins.
On a bien compris le double discours qui y avait, voilà. C'est le paradoxe Dubaï, on va le nommer comme ça. Et vous, en tant que scientifique en rébellion, quelle serait votre COP idéale ?
Ah ben, on a entendu que la COP avait eu lieu dans un vrai lieu, justement, l'importance des lieux. Ben, on peut parler de l'importance des gens, une COP avec des vrais gens. On peut voir ces 28 COP comme 28 expériences qui ont raté quelque part, ou en tout cas décevantes. Ben, en France, on a eu il y a quelques années une expérience dont on peut considérer qu'elle a vraiment réussi sur le plan politique autour de l'écologie, et ça a été la Convention citoyenne pour le climat, qui montre qu'il y a une vraie envie dans la société civile, avec des vrais gens, y compris des gens qui ne sont pas experts a priori de ces questions-là, de prendre le problème en main, avec des décisions fortes à la fin. Donc on rêverait d'une sorte de convention citoyenne mondiale pour le climat, et je suis convaincu qu'on verrait que les questions de justice sociale, l'importance que le problème est mondial et qu'on doit être solidaire là-dedans, je suis sûr que ça ressortirait d'une intelligence collective des citoyens du monde entier avec beaucoup de diversité. Mais voilà, ça doit s'organiser ailleurs, il faut organiser ça dans d'autres espaces politiques, un vrai lieu intéressant sans doute, que ces COP n'aient pas confié notre avenir, on le voit, à ces gens-là.
D'ailleurs, on a vu qu'à Dubaï, la société civile avait donné de la voix quand même. Elle était là, alors elle était dans le cadre de la zone bleue gérée par l'ONU, hein, c'est parce que Donc il y avait quand même des ONG qui parlaient. Une autre action, une série d'actions même qui a eu lieu en France cette fois, c'est les actions des soulèvements de la Terre qui ont programmé entre le 8 et le 12 décembre dernier contre le monde du béton et en particulier contre l'entreprise Lafarge-Holcim qui compte environ 300 centrales à béton en France. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces journées et du problème béton ?
Alors, ces journées, c'était déjà symbolique par rapport à l'anniversaire de Bouc Belair, qui est une centrale près de Marseille, où il y a eu une action il y a un an des soulèvements de la Terre. Ceux qui ont fait cette action ont été poursuivis en justice. Il y a eu une enquête très poussée qui a été menée, qui a dû coûter très cher, des sous qui auraient pu servir à autre chose. L'idée de le faire à ce moment-là, c'était l'anniversaire de cette action-là. Et du coup, partout en France et même en Belgique, il y a eu des actions qui ont pris diverses formes. Donc à Paris, c'était vraiment très festif, une sorte de kermesse contre la farge qui a été faite à un site de centrale à béton. Mais ailleurs, il y a eu des actions dans des centrales pour les rendre inopérationnel. Il y a eu différentes formes d'action. Vraiment, sur le béton, on peut dire beaucoup de choses. Le béton et le ciment représentent 8% des émissions de CO2 mondiales, ce qui est énorme. C'est plus que le transport aérien et maritime réunis. Ces émissions de CO2, le monde du béton en est très conscient, bien sûr, et essaye de les réduire par du technosionisme et du greenwashing, comme d'habitude, donc avec du captage de carbone et en utilisant des déchets comme combustible, ce qui ne va pas du tout résoudre le problème, puisque pour créer du ciment, du coup, il faut énormément chauffer le matériau et en plus, ça émet du CO2 par la combustion de cailloux, en gros, du calcaire. Je ne sais pas si je continue.
Et avec ça, on a parlé de la ville de Dubaï et la question de l'artificialisation aussi.
Absolument. Donc du coup, ce qui est très important, c'est que le béton, ce n'est pas juste un problème à cause du CO2. Ça, c'est juste une petite dimension du problème. Et qu'en réalité, le béton représente aussi un énorme problème d'artificialisation des sols, de raréfaction de la ressource en sable, d'énormément de consommation d'eau, de la destruction des littoraux, la pollution de l'air, de l'eau et des sols autour des usines. Et en fait, tous ces enjeux sont liés. Et c'est comme la COP28, qui est une conférence centrée sur le climat. Elle considère un peu le climat de manière isolée, mais c'est très important de considérer son interaction avec les autres problématiques. Donc l'effondrement de la biodiversité, la désertification, etc. Donc il y a d'autres COP pour ces problématiques-là, mais il faut les considérer ensemble. Et pareil ici, pour vraiment résoudre toutes ces problématiques-là pour le béton, la solution est un peu évidente, en fait, c'est de construire moins. Et au lieu de construire de manière délirante des autoroutes, des bâtiments nouveaux, des bureaux, des projets assez absurdes, ce qu'il faut faire, c'est plutôt construire moins et réhabiliter les bâtiments qui existent déjà, utiliser les lignes de TER et les rénover. Donc il y a d'autres solutions avec les ressources qu'on a déjà en place.
Donc la France, elle se veut à la fois championne du climat et puissance industrielle et agricole. Il y avait un de ces méga projets dont vous parlez qui a été cité à cette kermesse contre la farge. Avec l'appui de l'industrie du béton, est programmée la construction du canal Seine-Nord-Europe, une espèce de tranchée de 107 km de long et de 54 mètres de large entre Compiègne et Aubencheul-le-Bac pour donner une solution soi-disant écologique au transport de marchandises. Je trouve que c'est un projet assez emblématique du double discours on peut nommer ça peut-être capitalisme vert, je pense qu'on va mettre les mots. Le problème du CO2, c'est les camions. Du coup, on va faire un méga projet méga polluant pour continuer à transporter des marchandises depuis l'autre côté de la planète, mais de manière soi-disant écologique. Bon. Comment est-ce que dans ce contexte, où en fait il y a une espèce d'écart, on l'a dit pendant toute l'émission, entre ce que disent les scientifiques et ce que font les politiques, la parole des scientifiques justement est devenue politique. Vous qui faites partie de scientifiques en rébellion.
Alors là-dessus, je pense qu'il faut se rendre compte, c'est très important, que le rôle des scientifiques a toujours été politique. Les scientifiques n'ont jamais été apolitiques. Nos financements viennent de quelque part. Pourquoi on travaille sur un sujet plutôt qu'un autre ? C'est parce que c'est ce sujet-là qui est financé. La science a toujours eu des liens avec l'industrie, qui sont plus ou moins proches selon la science qu'on fait. Mais la science n'est jamais neutre. Et du coup, rester dans nos laboratoires et ne rien faire par rapport aux problématiques de la société, c'est accepter le status quo. Donc, c'est déjà une action politique, en fait. Donc, à l'inverse, pour scientifiques en rébellion, sortir de nos labos et faire de la désobéissance civile et se prononcer pour ou contre certaines actions, c'est être en accord avec nos valeurs.
C'est à quoi comme effet pour l'instant sur les politiques en cours ? Enfin, je pense que c'est quand même assez fort d'avoir des scientifiques aux côtés des luttes locales.
Je pense que c'est une vraie épine dans le pied pour eux, parce que de fait, on ne peut pas écrabouiller un scientifique comme on écrabouille un militant de base. Alors c'est triste, hein, et de fait, nous, c'est un peu une question qu'on se pose parfois, mais de fait, c'est très important pour crédibiliser ces luttes. Et on disait effectivement, la parole des scientifiques et politiques, dans la situation actuelle, leur silence serait très politique aussi. Ce serait un choix de complicité quelque part. Donc, en fait, on est dans une situation où on ne peut pas rester neutre. On doit soit choisir de se taire, mais ça veut dire être complice, ou choisir de parler. C'est compliqué, mais ça nous force à nous positionner clairement pour dénoncer. Enfin, vous disiez, la France se veut la championne de l'écologie. Ben, nous, on est là pour dénoncer qu'on ne peut pas être le champion de la lutte contre le changement climatique et encourager un mode de vie basé sur la voiture et l'avion en construisant des aéroports et des autoroutes. Ça, c'est un mensonge qu'on dénonce. Voilà, c'est un peu notre rôle aussi de dire qu'il faut être un petit peu sérieux sur ces choses-là.
Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. Je donne juste quelques petites idées de sortie pour les parisiennes et les franciliennes, parisiens, parisiennes et franciliens, franciliennes qui nous écoutent. Ce samedi 16 décembre à Compiègne a lieu la fête de l'eau pour célébrer l'eau et lancer un mouvement massif contre ce fameux méga canal Seine-Nord-Europe dont je vous ai parlé. C'est rendez-vous à partir de 13h, rue du Chevreuil à Compiègne. Et un deuxième rendez-vous, c'est le lundi 18 décembre. Il y a un appel pour former un cortège écologiste massif à la manifestation pour la Journée internationale des migrants et des migrantes, la régularisation de tous les sans-papiers et contre la loi Darmanin. C'est à 17h à l'Opéra. Alors la loi Darmanin, elle a été que partiellement, elle a été désavouée en premier vote, mais le processus continue, donc il faut continuer à rester mobilisé. Et en bonus, pour les fêtes de fin d'année, vous pourrez retrouver une version rallongée de cette émission avec un reportage qui s'appelle « Fascisme ou révolution » dans laquelle on revient sur une conférence qui a eu lieu le 2 décembre. Et vous retrouverez aussi un montage, un petit extrait sonore du coup de cette manifestation contre le béton qui a eu lieu dimanche dernier à Paris. Merci beaucoup à nos invités, Léa Bonnefoy et Irénée Frérot.
Merci.
Et merci Roman Stadnicki d'avoir répondu à nos questions. Merci à Louis pour la réalisation. Et merci à vous, chers auditeuristes, d'avoir passé cette heure avec nous dans Arpentaire, une émission du Zoom Écologie. Je voudrais préciser que le générique que vous entendez en ce moment, il est emprunté à la talentueuse Jeanne. J'ai trouvé ça sur SoundCloud et sa composition s'appelle Sonogramme. Je vous encourage à aller voir son travail. On se quitte juste après le générique avec un morceau de Aquanaru qui s'appelle The Canary Dream. C'est un morceau qui date de 2015 et qui est issu de l'album The Miner's Canary. Belle soirée à vous et bonne fin d'année.
Spread my wings and fly to these dreams of mine. And ain't nobody bad enough to stop me. Ooh, I to fly, fly, fly.
Canary dreams, you know all about. Cage in the world of doubt. Given the flight, less travel. You took the only route. Brave and talked about. Made famous in the dirty south. Talk of plantations, give you cotton mouth. Others write your fate to you, chirp and set the record straight. Ancient and future age, free and get another cage. The world can't afford your pain. Recorded by Paul Lawrence, roar back when cash used to wonder why you sing. Your story and shine as I chant this cry. Playing pause, hurt justice, rewind. The fast forward, you gotta fly. How high set the wing to the sky? Who you think put that seed in your mind? Perched upon a time till a window crack brought you back a design. Abstract, divine, Maya, Michelangelo kind. Painted on the poster, morning portrait spoken in rhyme. Nas told you the world is yours, just open your eyes. It's like,
ooh, I watch me spread my wings and fly to these dreams of mine. And ain't nobody bad enough to stop me.
We dream in color till a fire spark. Hakeem Elijah wants into the world inside the heart of work of art. Lost Venus, Serena Williams, stars beaming me in those dreaming eyes of mine. Could see him reaching loose and wet the fur. Nightmares reoccur like I'm that lonely bird, content with breadcrumbs on the curb. Woke up disturbed with ruffled feathers, Lord working my nerves. Ancestors send a message, yo, you better be home. Regressions to past lives be recited in poem. Dreaming real world, sit side by side on the throne. An architect, future moments born for thoughts in your dome. But lady saw under the sycamore tree in the grove. Why enter on life stages? What I ponder these days after grandma came in the night with a question to raise. It's not the picture, baby. Challenged the frame and disappeared in the cloud of haze. Whistling surely sees an angel sign my name.
Ooh,
chestnut, you know
I can spread my wings.